Fun for You avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, bienvenue dans Fun for You épisode 21. Comme chaque semaine, on se retrouve sur funradio.be, sur l'appli Fun Radio et sur toutes les plateformes de podcast pour Fun for You, votre rendez-vous bien-être, santé et vie intime. Fun Radio. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur Fun Radio, j'accueille une nouvelle recrue de l'équipe de Fun for You. C'est Justin qui est avec moi ici en studio. Salut Justin.
Salut.
Alors tu es assistant social et on va parler d'un sujet assez tabou aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser au deuil.
Tout à fait. Alors, comment est venue l'idée du deuil? Cette idée a déjà commencé dans ma pratique professionnelle.
Ouais.
Dans le passé, encore actuel, je suis assistant social à l'hôpital. Donc j'ai quand même pu être confronté de près et de loin au deuil, à l'annonce du deuil, à l'accompagnement des personnes endeuillées. Et donc via des soins palliatifs ou via des services en interne aussi à l'hôpital. Et puis, mon constat un petit peu de cette année, je ne sais pas si tu as vu, il y a quand même pas mal de décès.
Ouais.
Je crois un peu de même dans le monde du cinéma, dans le monde de la musique, Ozzy Osbourne, Thierry Ardisson, Robert Redford comme acteur. Donc, j'ai trouvé un petit peu cette année où il y a eu énormément de décès. Presque tous les jours, c'est-à-dire qu'on entendait une personnalité qui décède, mais je crois qu'il y en avait de plus en plus. Et puis, si je fais un petit côté personnel, dernièrement aussi, j'ai perdu un amant. Et c'est un petit peu, donc, tous ces cheminements où je me suis dit, qu'est-ce que c'est vraiment le deuil? Comment on fait face au deuil? C'est quoi ces étapes? Et donc, c'est un petit peu cette envie, en fait, que j'ai eu de me pencher, de lire des livres, d'aller un petit peu au-delà juste du mot du deuil et de découvrir un peu ça par moi-même. Et pourquoi pas un peu aujourd'hui, briser le tabou et pouvoir en parler à l'antenne et publiquement pour pouvoir peut-être donner des pistes ou expliquer concrètement c'est quoi le deuil et ses étapes.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été confrontés au deuil pour une personne proche, par exemple. J'ai l'impression que souvent, le premier deuil qu'on vit quand on est jeune, par exemple, souvent c'est un animal.
Quand on est petit, généralement, oui, c'est la mort d'un chien, d'un hamster, d'un poisson rouge. Donc c'est vrai que ça peut avoir affecté, mais il y a des deuils qu'on vit de près ou de loin, comme tu viens de le dire, d'un animal, ou on entend un arrière-grand-parent qui est décédé.
Ouais.
Mais on n'a pas vraiment de lien très fort ou très puissant symbolique avec eux. Et il y a des deuils ou des décès qui sont plus marquants. Je crois, par exemple, un parent proche, donc un papa, une maman, un cousin, un frère, une sœur, ou par exemple, je ne sais pas, un collègue, quand on avance un peu plus en âge. Et donc là, ça commence à faire réfléchir. C'est sûr que quand on est enfant, on n'a pas vraiment cette symbolique non plus du décès. Généralement, même quand on reprend un petit peu, on voit que les parents expliquent à leur enfant qu'il est parti. Parfois aussi, on le caractérise, par exemple, dans les films ou dans les séries, il est parti en voyage ou il ne reviendra pas. Mais on ne prend pas vraiment d'expliquer ce qu'est le décès. Et je pense qu'on peut mettre aussi à disposition un accompagnement, un suivi pour les enfants vis-à-vis du deuil. Je prends par exemple dans les écoles avec des PMS. Mais concrètement, c'est vrai que mettre le mot du deuil, c'est toujours aussi quelque chose de tabou. Et puis généralement, on l'associe aussi au deuil à quelque chose de fort personnel, individuel, qu'on fait un peu de son côté. Alors que ça peut aussi aider de le formuler, de le verbaliser, que ce soit via l'entourage ou via des professionnels, des psychologues, des thérapeutes. Et donc pour moi, ça me paraît aussi important de le verbaliser hautement et pas seulement intérieurement.
Je propose qu'on commence avec une petite définition du deuil pour remettre un peu les choses au clair pour les gens qui nous écoutent.
Bien sûr, moi si je devais juste, définir le deuil, ce serait la douleur, la peine éprouvée suite à un décès de quelqu'un.
Ouais.
Donc ça c'est vraiment, entre guillemets, une recherche que j'ai pu faire, ça c'est la définition assez classique. Moi je trouve qu'elle est trop généraliste parce que c'est vraiment un peu la définition fourre-tout. Et je me suis dit, ce serait intéressant de la mettre un peu en corrélation avec d'autres aspects. Parce qu'un deuil, c'est pas seulement juste la perte de quelqu'un. C'est le deuil, par exemple, le deuil amoureux, le deuil, la perte d'un emploi, le deuil d'une transition, par exemple, du passage de l'enfance à l'âge adulte. Mmh. Donc, en fait, il y a plusieurs formes de deuil. Et donc, je me suis dit, on pourrait un peu étoffer cette définition classique en disant, par exemple, que le deuil, c'est un processus d'adaptation émotionnelle, donc à la suite d'une perte, comme je disais, la perte d'un être cher, d'un emploi ou d'une relation. Et donc, ce deuil, en fait, il a une dimension émotionnelle, mais aussi physique, cognitive ou philosophique.
Est-ce qu'il existe différentes formes de deuil?
Bien sûr, donc il existe le deuil normal, on va dire le deuil classique, donc où c'est la réaction à la perte de quelqu'un, donc la tristesse, l'émotion, le manque. Il existe aussi donc le deuil anticipé, donc par exemple quand on sait que la personne va décéder, donc il y a tout ce processus, on va dire, en fait, de réflexion, de préparation justement à la perte de cette personne. accompagné ou pas. Donc, par exemple, une personne en soins palliatifs. Donc, on peut déjà se préparer à la perte de cette personne suite à ce statut, entre guillemets, qu'on lui donne. Il y a le deuil compliqué ou prolongé. Donc, c'est-à-dire que c'est la difficulté de reprendre un peu le cours de sa vie normale à la suite, justement, de cette personne. Le deuil pathologique, où donc ça va engendrer des conséquences, donc une dépression profonde, ce genre de choses. Le deuil différé, c'est un peu comme on voit les personnes, tu vois, qui tiennent face, qui font qui gardent le sourire et puis en fait vont éclater quelques mois après et vraiment commencer ce processus de deuil. Je prends par exemple toutes ces personnes qui sont vraiment dans cette spirale administrative à la suite du décès, donc les préparations, les funérailles, les héritages.
Oui, parce qu'après le décès, ça peut aller très vite. On a des fois pas vraiment le temps de se rendre compte de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que des fois, ça vient un peu plus tard, une fois que tout est terminé.
Ça fait partie justement des étapes du deuil. Donc, on est un peu en pilote automatique au début. Donc, on n'a pas encore le temps de digérer l'information. Et puis ensuite, quand justement toutes ces spirales, on va dire, est finie, là, on va commencer à en fait réaliser et arriver jusqu'à la dernière étape, donc l'étape d'acceptation, on va vraiment se dire, bah tiens, ok, là, la personne, en fait, elle est partie. Et c'est là aussi que peut recommencer le deuil. Parce qu'on va le voir plus tard, mais les étapes, elles ne sont pas écrites. On peut switcher dans les étapes. Et donc, c'est vrai qu'on peut réaliser plus tard, en fait. Donc, d'où le deuil différé, que cette personne, en fait, est partie.
Ok.
Donc, il existe aussi, par exemple, un deuil, ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, non reconnu. Donc, ça, par exemple, la société, entre guillemets, ne reconnaît pas la perte. Je prends, par exemple, la perte d'un animal.
Ouais.
Il n'y a pas vraiment de fonction symbolique pour la personne. Nous, on perd quand même un animal.
Un être cher qui fait partie de notre vie, qui est là pendant des années parfois.
C'est ça, et on ne le reconnaît pas vraiment. Il y a pas de, on peut faire une petite cérémonie, mais il y a niveau administratif, niveau reconnaissance, il n'y a rien du tout. On va dire que c'est le vétérinaire qui vient chercher l'animal, et voilà, la vie continue. Donc, il y a aussi le deuil symbolique, comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est la perte d'une partie de sa vie, donc une rupture, la perte d'un emploi, ce genre de choses. Comme on vient déjà de le discuter, je pense que le deuil, ça peut se discuter pendant des heures. Donc, c'est difficile déjà d'aborder le sujet du deuil parce que c'est personnel. Donc, chacun, entre guillemets, a son histoire à partager. Et donc, je pense que c'est difficile de le résumer de manière très concrète ou concise. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est juste de pouvoir déjà en parler pour sensibiliser et conscientiser les personnes aussi à différents types de deuil et les étapes ou les définitions que ça peut avoir.
Combien de temps ça prend de faire son deuil ? J'ai l'impression qu'on a tous un peu des durées complètement différentes. Ça dépend peut-être aussi de notre lien avec la personne. Quand on perd un parent, quand on perd un enfant aussi, des fois c'est des choses qui arrivent. Ça prend plus ou moins de temps.
Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de temps défini. C'est-à-dire, c'est comme tu viens de le dire, c'est en fonction un peu de l'intensité, du lien, ou je prends par exemple aussi, donc si c'est, imaginons, un deuil amoureux, ben, de l'intensité de la relation. Puis aussi, par exemple, ça nous est tous déjà arrivé, l'envie de vouloir renvoyer un message, puis les moments où on doit se réexpliquer. Puis ensuite, 3 mois après, on se dit, ah ben non, je pense encore à cette personne-là, ou peut-être cette personne-là nous revient. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de durée, on va dire, date calendrier. On ne se dit pas, ben dans 2 semaines, c'est fini.
Oui, c'est fini, ouais.
Ou dans 6 mois, je passe la page. Donc, c'est vraiment, en fait, ça varie en fonction de la personne, de l'intensité, du lien. Enfin, il y a tellement de choses. Et puis, c'est aussi personnel. C'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir passer au-delà. Il y en a, par exemple, ils vont se laisser peut-être juste submerger par les émotions. Et donc, ça prend plus de temps. Il y en a qui vont peut-être être plus proactifs et se dire, ben voilà, je vais prendre du temps pour moi, je m'arrête, je me pose, je vais peut-être commencer un suivi, je vais peut-être pouvoir en parler. Donc, chacun va vivre un peu son deuil et ses étapes, on va dire, en fonction de sa durée à lui. Donc, il n'y a pas vraiment, on ne va pas se dire, ok, aujourd'hui, la personne est décédée, dans 6 mois, je vais mieux. Ça peut vraiment, je pense que ça dépend de chacun et de sa force et ses ressources, tout simplement.
Il y a aussi, dans l'année, des dates un peu plus compliquées qui nous replongent un peu dans tout ça. Je pense aux fêtes de fin d'année, à l'anniversaire, par exemple, d'une personne décédée. On avait peut-être l'habitude, chaque année, de fêter son anniversaire. Là, elle n'est plus là. Ça nous replonge un peu là-dedans. Est-ce qu'on parle encore de deuil quand on a cette petite tristesse, des dates anniversaires, etc. ou finalement, c'est quelque chose de normal? On est peut-être dans une nostalgie, dans des souvenirs de choses qui n'existent plus.
Moi, je pense que c'est normal et c'est humain. C'est vraiment ce côté, on se rappelle la personne.
Ouais.
Donc, par exemple, et je pense que c'est fréquent dans les réunions de famille, on va se dire, ah ben tiens, cette personne-là, pour Noël, elle aime bien manger du foie gras avec de la confiture. Il y a toujours ces petites pensées. Et je pense, et c'est ça qui est fort et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir déjà le verbaliser. Donc, je pense que ça fait partie aussi de l'acceptation de la perte de cette personne. Mais en même temps, de pouvoir le dire, parce que ça fait continuer à vivre cette personne à travers les paroles, mais en même temps, à travers les anecdotes. Et je pense que c'est ça qui est fort, en fait, aussi, et qui peut être puissant dans l'union ou dans le processus du deuil, c'est de, malgré tout, faire vivre cette personne. et pas justement se dire on n'en parle pas, elle est partie, ça nous a fait du mal et on l'efface. Non, justement, elle doit continuer à vivre parce qu'elle a fait partie de notre vie passée, mais elle peut aussi continuer à faire partie de notre vie future à travers justement des souvenirs ou des anecdotes ou je ne sais pas, un événement ou des dates importantes comme on disait. Donc je pense qu'il faut célébrer cette personne dans tous les sens que ça peut avoir.
Est-ce que tu as des chiffres par rapport au deuil?
Alors, en Belgique, il y a environ 112 000 décès qui sont enregistrés chaque année. Il y a 70 à 80% des personnes endeuillées qui ressentent vraiment une détresse psychologique marquée donc, dans la première année de cette perte. Et il y a environ 10 à 15% des personnes endeuillées qui développent vraiment un deuil prolongé qui nécessite un suivi thérapeutique.
Et qu'est-ce qu'on doit faire finalement pour accompagner toutes ces personnes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour un accompagnement après un deuil?
Il y a pas mal de choses à Bruxelles et en Wallonie qui sont mis en place. Donc déjà au niveau de manière générale, au niveau de l'accompagnement, je pense qu'il y a l'entourage, la famille, les amis, les collègues aussi qui parfois qui peuvent être des ressources. Au niveau plus professionnel, on va dire, donc il existe des groupes de parole, des groupes de soutien. Il existe aussi des associations ou des lignes téléphoniques qui peuvent justement servir d'appui pour les personnes endeuillées. Je pense aussi aux professionnels, donc thérapeutes, psychologues. Par exemple, à Bruxelles, il y a PsyBru, c'est un regroupement de psychologues en fait de première ligne qui justement, dont certains sont spécialisés dans le deuil ou dans la perte d'êtres chers. Et en fait, par exemple, les séances sont assez abordables. Par exemple, c'est 4 euros si on est bénéficiaire de l'intervention majorée et je pense une douzaine d'euros si on est assuré ordinaire. Donc ça permet justement de rendre et de soutenir ces personnes-là dans ce processus de deuil. Donc on n'est vraiment pas tout seul pour traverser cette période.
Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important, l'accompagnement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, après avoir vécu un deuil, après avoir vécu, peu importe, on parlait même d'une rupture, d'une perte de travail, etc. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls, de se renfermer, peut-être de partir à l'étranger tout seul. Finalement, l'accompagnement, ils n'en ont pas vraiment besoin, du moins, ils n'ont pas l'impression d'en avoir besoin. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'obligatoire? Il y a des gens, c'est complètement OK de se dire, toi, tu veux être tout seul, reviens vers moi quand tu voudras en discuter.
Je pense que déjà rien que l'accompagnement, comme tu viens de le dire, ou de proposer son aide, c'est déjà bien, c'est une bonne chose. Donc la personne va l'entendre et va pouvoir aussi, on va dire, l'utiliser quand c'est nécessaire. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont envie de s'isoler, et c'est tout à fait normal de partir ou de... Je prends dans mon cas, moi, ma première réaction, c'était de lire des livres.
Ouais.
Donc j'ai cherché justement des livres sur le deuil, de comment surmonter. Donc j'ai lu Christophe Auré, c'est un psychiatre justement français qui a fait des livres par rapport à ça. Et donc moi, c'est vrai que je me suis renfermé. Et puis ensuite, malgré tout, j'ai quand même eu pas mal d'insistance. On voit dans ces premiers moments, on va dire, de perte et de deuil, la famille, les amis qui vont envoyer des messages. On va recevoir justement plus d'appels pour montrer les gens vont avoir cette bienveillance de vouloir être soutenant et de vouloir être présent. Donc malgré tout, moi, je dirais qu'on n'est pas vraiment seul. C'est plus quelque chose... Le processus va se faire intérieurement. Donc, parce qu'on est... D'un côté, on a beau être accompagné, on aura toujours un moment où on va se retrouver seul. Donc, on aura quand même ce moment où on va dire, prendre du temps pour soi, de penser justement à cette perte, de penser à la douleur que ça peut engendrer. Et c'est aussi ce moment où on va pleurer, comme on reprend un peu le début, ce tourbillon et ce processus où on doit gérer tout l'administratif. En fait, on est pris dans cette spirale où on a vraiment la tête à autre chose, de se dire « Ah, il faut régler ci, il faut régler ça, il faut penser à l'appartement, il faut le vider, il faut remettre les clés, il faut appeler la famille, il faut envoyer les faire-part, il faut les pompes funèbres. » Et en fait, on a un peu, comme je disais, en pilote automatique, et peut-être c'est au moment où on va se retrouver seul qu'on va relâcher la pression, pleurer et vraiment pouvoir vraiment extérioriser toute cette tristesse ou cette peine que la perte de cet être cher peut avoir amené.
Parce que le changement d'accompagnement, j'ai l'impression que des fois, il peut être un peu brutal. Par exemple, après l'approche à la perte plutôt d'un proche, on est fort accompagné, il y a les visites, il y a beaucoup de gens qui viennent chez toi pour t'aider dans tout ce qui est administratif aussi. Et puis du jour au lendemain, malheureusement, la vie reprend son cours. Il y a des gens qui recommencent à travailler. Par exemple, je pense aux personnes âgées qui perdent leur moitié. Souvent, les petits-enfants sont là, les enfants sont là pour aider, etc. Mais du jour au lendemain, souvent après les funérailles, souvent c'est même le jour après les funérailles, tout le monde repart dans sa petite vie et il y a une personne qui se retrouve toute seule, sans accompagnement. On peut aller, donc, quand on est dans cette situation, aussi vers des professionnels, c'est important de le faire.
Moi, je pense que c'est important de le faire. Il n'y a pas forcément que des professionnels. Je prends le cas, mais par exemple, comme tu disais, des personnes âgées, ben, il y a des associations justement pour les personnes âgées. Je prends à Bruxelles, il y a énormément de maisons de quartier aussi où les portes sont ouvertes. On peut juste venir, prendre un café, se poser, discuter. Donc, je dirais, c'est personnel encore une fois, mais si on n'a pas envie d'être seul, on peut provoquer justement, sortir. Oui, oui. Je sais qu'il y a aussi, je prends un exemple, Outer Game, il y a toute une communauté senior qui s'est développée. Donc, par exemple, le mardi, le jeudi, ils jouent aux jeux de société, ils font poker, ils font des activités. Donc, je pense qu'au niveau donc, des communes, il y a des services seniors. Donc, on peut justement se tourner là-dedans. Je peux comprendre qu'une personne âgée n'a pas envie de ça parce qu'il n'a jamais connu ça. Il était habitué à son petit rituel avec sa compagne. Donc, c'est difficile de changer.
Oui, surtout que souvent, c'est des relations qui ont duré pendant des années. Et c'est vraiment perdre un pilier de sa vie, de se retrouver un petit peu tout seul.
Et généralement, c'est là aussi où on peut constater que cette personne-là perd, donc, comme tu disais, un pilier, mais en même temps aussi tous ses repères, donc toutes ses habitudes de vie. Je prends une personne justement qui était un peu, on va dire, dépendante à l'autre dans le sens où un petit peu plus fragilisée physiquement, en difficulté à faire les courses. Là, je pense que la famille ou l'entourage va être vraiment super important de par mettre des aides à domicile, de par faire un accompagnement aux courses, une aide familiale justement qui va passer. Je sais que ça ne va pas remplacer la personne qui est décédée, mais ça peut pallier justement à certaines difficultés de la vie quotidienne qui va être justement mis en place par l'entourage ou par un service social aussi qui peuvent accompagner les personnes isolées et voir les personnes âgées isolées.
Pour en revenir un petit peu au deuil, il y a 5 grandes étapes dans le deuil, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. En fait, on peut confondre entre 5 ou 7, mais il y a une psychiatre de référence, donc Dr. Elisabeth Kubler, qui vraiment en illustre 5, qui sont vraiment les 5 plus utilisés. Donc le premier, c'est le déni, le deuxième, la colère, le troisième, le marchandage, le quatrième, la dépression, le cinquième, l'acceptation. Et donc, comme je disais tantôt, il n'y a pas vraiment, donc on ne passe pas par le 1, 2, 3, 4, 5.
Oui, bien sûr.
Il y a vraiment le 1 et le 5 qui sont vraiment symboliques, donc le déni et le dernier, l'acceptation. Mais par exemple, les autres, ça peut vraiment varier d'une personne à une autre et on peut switch, en fait, donc par exemple, de la colère à la dépression et inversement. Mais donc, encore une fois, c'est le deuil est vraiment quelque chose d'individuel et de personnel. Et donc, il n'y a pas, encore une fois aussi, d'étapes ou de process vraiment prédéfinis. C'est, chacun le vit à sa manière. Mais on peut vraiment, selon des études, déceler la première étape, le déni, et la cinquième, pour sûr, vraiment l'acceptation. Mais les autres se font vraiment un peu dans un ordre aléatoire. Donc, pour conclure, pour moi, le deuil, il n'existe pas une bonne ou une manière de le faire. C'est vraiment un processus individuel où chacun va mobiliser ses ressources. Donc son entourage, les psychologues, l'aide. En même temps, on va pouvoir passer à travers ces étapes en fonction un petit peu de son histoire, de son vécu, comme on l'a dit, en fonction aussi de l'intensité de la personne. Et c'est important aussi donc de respecter donc cette personne qui est endeuillée. Donc, ouais. Si elle n'a pas envie de parler, c'est son choix. Je pense que il faut faire preuve d'un grand respect et d'un grand soutien aussi pour ces personnes endeuillées. Et c'est pas mal d'être en deuil, dans le sens où c'est pas grave. C'est quelque chose dont on va tous être confrontés un jour ou l'autre. Et donc ça doit pas être stéréotypé, ça doit pas être quelque chose de négatif. Faire un deuil, ça reste une expérience de vie auquel parfois on est confronté de manière directe ou indirecte, où on a des outils auxquels réagir, mais ça reste quelque chose qui fait partie de l'étape de la vie, qu'on a souvent tendance à pousser le plus loin possible, parce que c'est jamais agréable de traverser un deuil, mais ça reste une étape de vie à laquelle on est confronté tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Justin, d'être venu nous voir ici sur Fun Radio pour nous parler du deuil. C'est un réel plaisir de te recevoir.
Merci à toi pour l'accueil sur le sujet.
Et puis, à très vite.
À bientôt.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.